que quelques planches, j'ai fait le premier. Deux grandes ailes blanches à bien décoller.
Eh bien, salut soir à tous, merci d'être à l'écoute d'Allegra FM. Je pense que les auditeurs ont peut-être été surpris d'entendre comme ça Johnny Hallyday en début d'émission. Voilà, je suis en compagnie de Benjamin Husson, d'un site internet, enfin entre autres un chroniqueur d'un site internet qui s'appelle Zoomerang. Bonjour Benjamin.
Bonjour Ludo, bonjour tout le monde.
merci d'être là. C'est vrai que j'aime beaucoup ta plume, enfin qu'on peut lire donc sur y a pas mal de chroniques, surtout chansons françaises. Donc j'avais décidé de prendre ce petit thème entre guillemets de la chanson française, on va dire, entre le début des années 70, qui a été une bonne période, une période de transition, comme tu dis.
Oui, moi je trouve que c'est une période intéressante parce que on sort vraiment des années 60 qui ont été comme ça l'apogée des yéyés avec des choses plus ou moins intéressantes, beaucoup d'adaptations. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le titre de Johnny qu'on vient d'écouter, que moi je connaissais pas, c'est assez marrant, je trouve.
Ah bah moi j'aime beaucoup, je trouve c'est un espèce de rhythm and blues psychédélique.
Ouais, et c'est du psychédélique, c'est ça. C'est-à-dire que vers 68, c'est quand même la fin du yéyé. Il commence à avoir du mal à vendre tous les Johnny, Sheila, Vartan, etc., qui avaient eu vraiment des heures de gloire. Et il commence à tenter des choses.
Des trucs, ouais.
France Gall l'avait fait sur un album de 68 où elle avait une tenue de hippie comme ça. Et ça marchait moins, mais c'était intéressant.
Alors, il commence aussi à faire des originaux aussi, parce que là, là, par exemple, sur cet album, Johnny commence à bosser avec Tommy Brown et Mickey Jones, qui sont deux guitaristes anglais qui ont signé le titre d'ailleurs. Et il va bosser avec les petits jeunes de l'époque déjà. Il y avait entre autres Eric Chardin sur cet album Rêve et Amour de 68. Voilà. Il y a d'autres gens, mais voilà. Enfin, petite précision sur ce titre.
Mais ouais, qui était bien. En tout cas, c'est vraiment, on va arriver effectivement à 70 comme ça, qui est une période tout à fait de mutation. Et en ça, elle est touchante, elle est jolie, parce que c'est toujours intéressant de voir des gens qui expérimentent. Donc les yéyés qui commencent à expérimenter des choses, mais aussi il y a toute une génération qui arrive, qui était arrivée comme ça à partir du milieu des années 60, avec beaucoup d'auteurs, de compositeurs, voire d'auteurs-compositeurs, ce qui est le comble, et d'interprètes.
Et ouais, ça n'existait pas, c'est vrai.
c'était vrai, ouais. C'était assez nouveau, ça.
Ben, je pense à Julien Clerc qu'on écoutera tout à l'heure.
Et voilà, mais même à Michel Delpech, c'est-à-dire que même s'il n'est pas purement ACI, comme on dit, auteur-compositeur-interprète, il a une idée précise des choses qu'il veut faire. Alors, il a une image aussi très variétée, c'est vrai, mais il n'est pas que ça, il n'est pas que ça du tout. Alors, il y a une espèce de dissociation qui se fait et qui va l'emmener vers un peu un abîme comme ça, mais qui est à la fois intéressante, c'est-à-dire des choses tout à fait populaires comme pour un flirt, et des choses plus surprenantes, pas du tout convenues, et on en entendra d'ailleurs
on va l'entendre. Alors c'est un morceau qui s'appelle Mon équipage, c'est extrait d'un album qui était sorti en fin d'année 70, quasiment 71. L'album s'appelle Album, puis sur comme il écrivait des textes aussi. Hein, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Voici mon album. Alors c'est amusant parce qu'il prend, c'est un espèce de décalage déjà à l'époque sur son statut un peu de chanteur.
Et c'est aussi le fait qu'on commence à faire des albums et non plus des super 45 tours. Ça voilà. Arrive au début des 70.
Voilà, vous allez voir, c'est assez psychédélique. Michel Delpech. voilà, vous êtes toujours à l'écoute de French Shop, assez surprenant aujourd'hui. Donc on a pu écouter deux titres, donc il y avait Michel Delpech avec le petit solo de guitare quand même, ça j'ai repéré. Il s'appelle Piero Fanen et il a fait partie de, entre autres, Zoo, guitariste du groupe Zoo. Et je crois après il a dû faire partie de Triangle. Enfin vous voyez, c'était assez rock hein, un petit peu. Et puis Michel, encore un Michel, Paul Naref.
Il y avait beaucoup de Michel à l'époque.
Il y en
c'est
avait
vrai.
Plein. Et avec extrait de Paul Naref's point avec un S à la fin. Mm. Et ça, c'était donc un instrumental qui s'appelle Computer's Dream. Et je trouve cet album vraiment remarquable, ce Paul Naref de 71, je crois.
Oui, il reste assez expérimental, Paul Naref, là-dessus. Et on retrouve des titres vraiment magnifiques, plus connus, comme Qui a tué grand-maman, qui est dédié à Lucien Maurice, qui a eu une super importance hein, dans le milieu de la musique des années 60. Ou une chanson comme Nos mots d'amour aussi, effectivement. C'est un bel album, un album marquant d'un Paul Naref qui vient de détrôner son look qui restera célèbre, les bouclettes blondes et les lunettes, et qui montrera bientôt son cul dans Paris quand même.
Ouais, carrément. Mm. Voilà, et c'est vrai que voilà deux artistes des années 70, Paul Naref et puis Delpech, qu'on a un peu ressorti des placards, si j'ose dire, ces derniers temps.
Qui ont tous les deux en commun d'être arrivés à la fin des années 60, c'est-à-dire de pas être estampillés yéyé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et de continuer leur route, parce qu'aussi ils avaient une espèce d'indépendance, ils écrivaient leurs textes, voire leur musique aussi, dans le cas de Paul Naref, et ils ont continué vraiment avec une vraie évolution, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas retrouvés hachés par mai 68 et ses conséquences par rapport à ça. Et effectivement, maintenant, il y a un vrai retour de ces deux-là, plus ou moins officialisés, dans le cas de Paul Naref.
Et alors justement, tu me parles de mai 68. C'est vrai que ça a été une période vraiment. Enfin, il s'est passé quelque chose. Je pense en 68, il y a eu. Je pense qu'il y a eu plein d'artistes qui sont arrivés à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a eu à la fois peut-être Mansé pour le côté un peu underground, Mansé qui arrive à ce moment-là, et puis un chanteur qui lui va cartonner tout de suite et va très vite remplir l'Olympia. Ça, c'est assez étonnant. Oui. Julien Clerc,
absolument. Mais c'est tout à fait nouveau. On n'avait jamais entendu ça dans la chanson française, Julien Clerc. On se rend plus compte maintenant, évidemment, ça fait longtemps qu'il est là, il fait partie du paysage, mais c'était tout à fait nouveau. D'abord des textes comme ça, très très lyriques, et puis alors, mais pas du tout dans la veine de la chanson française traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation complète avec la musique en même temps, c'est très échevelé, et puis bien sûr il y a la comédie musicale R qui va le faire absolument éclater en 70, et là c'est une vraie vraie consécration, et ça touche à la fois des gens plus élitistes, et c'est un côté en même temps tout à fait populaire, ça c'est une vraie caractéristique de Julien Clerc à l'époque.
Puis c'est vrai qu'il était, il y avait à la fois l'influence anglo-saxonne, et aussi l'influence de la chanson traditionnelle.
C'est ça, on dirait.
C'était pas Johnny, c'était pas Jacques Brel, c'était quelque chose d'un peu bâtard.
Ça va vraiment amorcer des gens comme Paul Naref, comme Delpech aussi, comme Clerc, ce qu'on appellera la nouvelle chanson française en 72, dont on reparlera tout à l'heure.
Ok, bon, on va l'écouter tout de suite, Julien Clerc.
Qui m'a manqué souvent, je sais le pain, les allumettes, le quotidien et puis les dettes ont tué notre amour et plus rien ne changera, plus rien ne changera à mon décor. Ton amour d'alors comme un fruit mal givré a fondu dans un été trop têtu, bien trop têtu, je crois. Change pas ta tête, ton foulard indien, tes cigarettes, ne fais pas le détour du boucher, je crois qu'il a été payé. J'ai pris soudain ma guitare sèche et je chante depuis sans tristesse nos amours enfuis un matin quand il manquait du pain, un tout petit peu de pain quotidien. Ton amour d'alors comme un fruit mal givré dans un été trop têtu, bien trop têtu, je crois. chez le même voisin. Je crois qu'il s'en souvient, je crois qu'il s'en souvient.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Aligre FM 93.1. L'émission s'appelle French Up. Alors, bon, c'était pas prévu dans cet ordre-là, mais peu importe. Je suis toujours en compagnie de Benjamin Husson. On fait une petite rétrospective, voilà, de la période 70-73. On va peut-être aller un peu au-delà. L'espèce de renouveau qu'il y a eu. Enfin, d'ailleurs, on n'est peut-être pas forcément d'accord. Enfin, il y a eu un renouveau, et comme tu l'avais dit toi aussi. C'est aussi une période un peu de transition.
De transition, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on cherche, les yéyés ne sont plus là mais se cherchent avec plus ou moins de succès. La chanson traditionnelle des Brel, Barbara, etc. se maintient. Et puis on a des petits nouveaux qui arrivent et on vient d'entendre une petite nouvelle qui est très brune à l'époque, qui a fait beaucoup de classiques mais qui a eu très vite envie d'aller s'amuser du côté des Beatles et puis qui avait envie de différentes choses comme ça. Et on ne la connaît pas encore beaucoup. C'est cette chance des années 70, c'est qu'on pouvait faire 5-6 albums qui ne vendent pas beaucoup, mais si on avait un directeur artistique qui vous aimait bien, on continuait. Et c'est le cas de celle qu'on vient d'entendre, qui est Catherine Lara, avec une chanson de son premier album de 1972. Assez peu connue en France.
Bah ouais, c'est vrai que Catherine Lara, on la connaît pour d'autres choses en fait.
Et on la connaît avec le grand succès public des années 80, mais assez peu sur les années 70, qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. Elle marchait au Québec, hein, cela dit. Uh-huh. Et le reflet mauve des forêts, c'est quelque chose d'assez intéressant au niveau de la sonorité. On n'est pas si loin que ça de Mansay, par exemple.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Voilà. Et elle va travailler avec différentes personnes qui l'auront repérée dans le métier. Elle va travailler notamment avec Françoise Hardy sur une chanson comme Il y a eu des nuits.
Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui vient. elle, elle vient du classique.
Elle vient complètement du classique.
Il y avait un morceau, enfin, qui s'appelait Morituri. C'est un morceau qui est créé en, tu me fais penser, enfin, tu parles de Mansé, effectivement, qui a chanté en latin à une époque. Alors, ça va vous rappeler des leçons de latin un peu horribles, mais c'est un morceau qui est passé en radio. Ça, c'est assez étonnant.
Morituri te salutant. Ceux qui vont mourir te saluent. Et c'était vraiment un ovni, quoi, dans la chanson. Et en même temps, c'était absolument une nouvelle génération, comme ça, des fameux auteurs, compositeurs, interprètes, avec des sonorités nouvelles, des textes nouveaux et des mélodies qui ont récupéré beaucoup de choses, du classique, du folk, des rythmes anglo-saxons, et qui ont réussi une synthèse de tout ça assez intéressante. Et d'ailleurs, il y en a une qui est fine mouche et qui n'est pas folle du tout, ou qui était très folle, mais alors de façon très élégante, qui a vite repéré Catherine Lara et qui a eu envie d'aller travailler avec elle, c'était Barbara.
Ouais.
Barbara, elle a travaillé sur un album de 72 qui était Amours incestueux, sur deux titres avec Catherine Lara, un qui s'appelle Accident, avec une construction mélodique assez compliquée, c'est-à-dire pas du tout dans le refrain, couplet-refrain, et puis une autre chanson qui s'appelle Clair de nuit, qui lorgne un peu vers des rythmes sud-américains, comme ça. C'est une jolie chanson, assez peu connue du répertoire de Barbara.
Ok, je crois que c'est ce qu'on va écouter tout de suite.
Allons-y, lançons-nous, testons.
Ciel de notre lit, des fleurs de lune, lune à la nuit sont posées. Les mains, mon cou nu, comme des arbres prunes, ça sont enroulés. Comme des algues, à mon cou nu, ça sont enroulés. Voilier chavire dessous la lune, lune dans l'eau chavirée. Comme deux fleurs de lune, lune dans l'autre, dans les bras que s'enroulent. Comme un torrent au fond des mers, dans l'écume éclatée. Les fleurs de lune, lune de la nuit sont posées. Au clair de notre nuit, au clair de nous, au clair de toi, mon amour. Au tendre de tes yeux, presque endormi, au merveilleux de tes bras. À ton silence, au calme retrouvé. Ah, on s'endort, le sommeil est un pays où l'on se retrouve encore dans l'océan de la nuit. Au clair de notre nuit, les fleurs de lune, lune à la nuit sont posées. Comme des algues brunes, ça sent enroulées dans tes cheveux. À mon cou nu, tous les deux accrochés. Thank you.
On est de retour. Alors, c'était pas prévu au programme, mais voilà, des choses qui arrivent.
Non, mais on improvise pas mal, hein, quand même.
Voilà, ouais, je trouve aussi. C'est la radio libre, un petit peu.
En freestyle.
Donc, je suis toujours en compagnie de Benjamin Husson. Donc, le site s'appelle Zoomerang. Tu n'as jamais chroniqué encore Michel Fugain, je crois pas.
Non, c'est vrai, mais ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Moi, ouais. J'aime le départ de Fugain, qui s'est fait connaître à la fin des années 60 avec Je n'aurai pas le temps, qui est quand même une jolie chanson.
Ouais, voilà.
Et qui après, vite parti avec l'envie de faire autre chose, donc il est parti avec une aventure qui était le Big Bazar après, hein, quand même, qui a eu son gros succès. Donc on est en pleine jonction comme ça du post 68 et de la fin des 30 Glorieuses, avec cette envie d'un autre espoir et de regarder les choses autrement, qu'on retrouvera d'une façon différente chez Maxime Le Forestier, qui sera non seulement dans sa maison bleue, mais avec une ardente envie de dégommer du parachutiste aussi à cette époque.
Donc, ah oui, c'est vrai.
Ouais, on retrouve cette envie.
Mais il était aussi très anti-militariste, hein, Michel Fugain, et vous voulez pas faire l'armée, tout ça.
Oui, il y avait une volonté de résistance, mais de résistance assez joyeuse malgré tout. C'était pas le point levé. Le No Future arrive quand même un peu plus tard. Là, on est encore dans des envies de changer les choses, peut-être naïves, mais de jolies utopies en tout cas.
Alors ça c'était c'est un peu peut-être ce qui lui a donné l'idée justement du Big Bazar et les prémices du Big Bazar. C'était une comédie musicale qui s'appelait Un enfant dans la ville.
Ouais.
Et ça date de 71, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Et tout n'est pas chanté par Fugain sur cet album. Il y a d'autres chanteuses, une chanteuse qui s'appelle Marie Rose. Je crois qu'il devait être assez connu au Québec. Il a fait ça avec toute une petite équipe. Et Jean Bouchetti aux orchestrations. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était vraiment la grande époque de la chanson française très orchestrée. Enfin, que ce soit Jean-Claude Petit pour Julien Clerc ou
ça. C'est justement cette histoire de période de transition. Parce qu'on sort des années 60 où, quand même, c'était pas forcément rigolo. C'est-à-dire qu'on avait des énormes arrangements avec tout un orchestre, puis le chanteur ou la chanteuse qui venait enregistrer après. Et puis, en train d'évoluer vers d'autres choses, et notamment des albums qui vont être enregistrés en prise directe avec des arrangeurs un peu plus fins, si on peut dire, en tout cas avec une envie de faire un travail complexe mais beaucoup plus léger. Donc il va y avoir toute une série comme ça on dira plus d'orchestrateurs mais d'arrangeurs assez fins. Vanier, qui avait déjà pas mal travaillé, puis qui va surtout faire Melody Nelson en plus quand même,
hein. De Gainsbourg.
Et puis on va trouver Michel Bernol, qui avec l'équipe Berger-Sanson puis Gall ensuite, c'est-à-dire des gens qui ont une envie d'une rythmique, qui ont envie de cordes et qui ont envie de modernité, qui ont envie de créer quelque chose. Et ça, c'est intéressant, et on le retrouve effectivement chez Fugain, qui est un petit peu dans l'entre-deux encore pour l'instant.
Et alors, les anciens, un petit peu ceux qui essayent de résister un petit peu, c'est vrai qu'il y a eu une traversée. On peut peut-être pas parler d'une traversée du désert, mais en tout cas quelques artistes comme ça qui pendant quelques temps vont plus faire vraiment de gros succès. Je pense par exemple à Françoise Hardy, et c'est bien dommage parce que elle avait sorti au début des années 70 des très très bons disques.
L'avantage d'une Françoise Hardy, c'est que c'est vraiment une artiste évolutive, donc, et c'est ça que je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle elle est toujours là, avec cette espèce de respect qu'on lui voue incroyable. Effectivement, elle a eu toutes ces années 60 qui ont été parsemés de gros succès, et puis avec la fin des Yéyés, même si elle s'est vite démarquée par un répertoire original, elle vend beaucoup moins. Et elle rencontre un jour dans un cabaret où on l'invite une guitariste chanteuse brésilienne pas très connue.
Elle s'appelle Touka. Voilà.
Et elle trouve ça formidable. Elle lui dit, mais on va faire un album ensemble. Et elle prépare cet album-là, et qui s'appellera par la suite La Question dans la réédition CD. À l'époque, il n'y avait pas de nom.
Il n'y avait pas de titre. Hein. On l'appelait Viens pendant longtemps, je crois, cet album.
Parce que c'était la première chanson du disque. C'était une grande originalité.
Mais elle l'appelait La Question, je crois, dans les interviews. Oui. Quand elle disait, moi j'aime bien l'album La Question. Donc je pense que c'est peut-être ce titre-là, finalement.
Qui est assez révélateur, d'ailleurs, de ça. Qui est vraiment. Un des albums cultes aujourd'hui d'elle, et comme beaucoup plus tard dans les années 90, Le Danger, qui est beaucoup plus rock, qui sont des espèces d'albums comme ça très très phares, qui tous les deux ont finalement très peu vendu. Et en tout cas, elle est décédée. Aujourd'hui, on n'en a jamais vraiment entendu parler depuis.
C'est vrai. Et il n'y a eu que ce disque-là de collaboration entre Touka et Françoise Hardy.
Oui,
c'est
au
vraiment
grand regret, au grand regret de Françoise Hardy.
De paraît-il. Tout le monde, je pense. et oui, Touka, en fait, bon, elle était un peu forte, paraît-il. Hein, et en fait, bon, elle a tenté une petite carrière en France parce qu'elle était donc brésilienne exilée en France. Mmh. Et je crois que bon, bah, les Français n'ont pas trop compris son univers. Ils essayaient de lui faire chanter des trucs qui lui correspondaient pas. Et elle est décédée en voulant trop maigrir en fait.
Comme quoi,
à la fin des
ne
années 70.
Ne maigrissez surtout pas. Voilà, donc, gardez vos kilos de talent. Mais c'est ça l'idée. Je crois d'ailleurs que le public a pas, enfin le public, tout le monde a pas vraiment compris ce que faisait Françoise Hardy avec la question. Mais c'est pas du tout problématique. Ça reste un bel album. Et regardez, c'est tellement peu important finalement de vendre des tonnes au regard artistique. Cet album est aujourd'hui absolument culte.
Ah bah c'est un chef-d'œuvre. Je trouve c'est un chef-d'œuvre discret. Moi j'ai envie de dire.
C'est parce un chef-d'œuvre discret.
Parce que c'est pas les albums dont on vous assène sans arrêt. C'est vrai qu'elle le cite en interview régulièrement. Donc pour elle, c'est un album auquel elle tient beaucoup. Mais contrairement, c'est vrai, dans le milieu du rock, on vous assène de manière assez visible. Mm-hmm. Et c'est vrai que bah, celui-là, il est un peu plus discret. Et finalement, bah, quand on y vient, on l'apprécie d'autant plus.
Oui,
et
puis il a très très peu vieilli. Très très peu vieilli. Pourtant, c'est à part, je ne sais plus quel délire érotico chuchoté qui doit être chanson d'eau, d'ailleurs.
Ouais.
Sinon, ça a très peu vieilli. D'ailleurs, c'est amusant, les ponts, parce qu'on retrouve des arrangements de cordes qui, pour la plupart, ont été signés par la fameuse Catherine Lara dont on parlait tout à l'heure.
Bon bah on va écouter ça tout de suite. Le morceau que je vous ai sélectionné s'appelle « Oui, je dis adieu ».
Je dis adieu. Ni ta vie, ni ton chemin, ta maison ou tes moments ne me disent plus rien. Avec toi, je suis si seule. Je dis adieu. Ton théâtre et ton vide, tes faiblesses et ta fatigue. Sont plus là aujourd'hui.
pas pour dire presque tout le temps j'étais marrant, toujours un croche-pied, toujours un pied de nez, l'almanach Vermeaux et sur le piano. Je comprends pas, je comprends pas. Et dans ma glace déformante, de longues larmes me tourmentent. J'ai mis mon faux nez pour le déjeuner. Je me fendais la gueule, pourtant j'étais seul. Je comprends pas, je comprends pas. Ce soir je pleure seul dans mon lit, en portefeuille. Elle adorait tous les déguisements. Je déguisais mes sentiments. Quand elle est partie avec un salaud, j'ai mis un poisson d'avril dans son dos. Je comprends pas, je comprends pas. Je pleure seul dans mon lit, en portefeuille.
Voilà, c'était un petit peu difficile de faire l'un sans l'autre. Françoise Hardy, un extrait de l'album La Question, et juste après, c'était Jacques Dutronc, un morceau qui date de 1974, qui s'est retrouvé au final sur son ultime album qui s'appelait L'Île Enchanteresse, un album qu'il avait réalisé avec Gainsbourg. Et c'était déjà la fin de la collaboration avec Lanzmann, puisque ce titre, je le disais, c'est coécrit avec Jean-Loup Dabadie.
Ouais, il est mignon, hein, Dutronc, quand il est le cactus qui perd un peu ses épines comme ça. Alors, autant il aime pas reprendre une chanson qu'il avait faite au début des 70, qui a eu un gros succès, qui était Le Petit Jardin,
ouais,
qui est un peu trop tendre, voire mièvre pour lui, que là-dessus, il a pas de problème. Et c'est très joli. Moi, je trouve qu'il a beaucoup d'élégance quand il met son poisson d'avril dans le dos ouais, de sa demoiselle, pendant que Françoise Hardy, elle, mettait un crabe dans l'aquarium pour que ses poissons soient toujours vigilants à l'amour et que ça ne s'écroule jamais. Voilà, c'est une jolie histoire. Ça.
Ouais, c'est vraiment une chanson qui leur présente bien, je trouve, Jacques Dutronc. Et d'ailleurs, il l'a reprise quand il avait fait son retour au Casino de Paris en 92. Il avait repris cette chanson, donc je pense que c'est une chanson qu'elle y tient, qui était d'ailleurs, je crois, pas sortie non plus en single.
En single, en 45 tours, oui. C'est, en plus, alors voilà, Dutronc, c'est aussi quelqu'un qui est arrivé dans le milieu des années 60 et puis qui a évolué tout de suite en OVNI, qui a décidé dès les 70 de commencer à moins travailler. Il travaille encore beaucoup, en fait. Mais
il faisait du cinéma, surtout.
Il va faire beaucoup de cinéma, ouais, dans les années 70, de façon gracieuse, d'ailleurs. Et c'est amusant de le retrouver dans Les Carpentiers, avec tout le détachement qu'il peut avoir par rapport à ça, et beaucoup d'ironie et un tantinet de cynisme. Uh-huh. Et il y a une émission assez marrante, d'ailleurs, des Carpentiers, où, je ne sais pas si c'était un numéro 1 ou un top-up, peu importe, où il invite une fille qui est has-been et qui a à peine une vingtaine d'années, et c'est vraiment terrible quand même, alors que c'était quand même la chanteuse pop française des années 60. On l'a un peu oublié, ça, mais vraiment avec des titres très raffinés, des musiciens épatants. Elle avait des musiciens de jazz souvent, et puis quand même un auteur compositeur qui était pas rien, puisque c'était Gainsbourg.
Ouais.
Elle est revenue le voir dans les années 70 en se disant, bon, ok, je fais une carrière en Allemagne, ça marche pas mal, mais c'est pas super, j'essaie tous les ans différentes choses.
La Torpedo Bleue, c'est pas
la Torpedo Bleue. elle revient voir Gainsbourg en se disant pour écoute quand même j'ai un peu de mal là. Il lui fait une chanson qui est vachement bien mais qui ne marche pas, qui s'appelle Frankenstein, et un peu plus tard. Mais avant ça elle est un peu perdue encore, mmh. et elle travaille avec Julien Clerc et Rhoda Gil,
ouais.
et elle fait, continue à être un peu présente chez les Carpentiers, avec Dutron.
On parle de France Gall depuis tout à l'heure.
Voilà, j'allais. Ouais. Mon effet de surprise.
Ah, pardon, je te casse tout.
Et elle chante Larsen, d'ailleurs, le Gentleman Cambrioleur avec Dutron.
Ouais.
Mais en 71, c'est du Rhoda Gil qu'elle chante avec une chanson absolument délirante et qui montre à quel point elle a une voix assez incroyable pour une Française. C'est très ternaire. C'est presque jazz, même si la chanson n'est pas jazz et la chanson s'appelle Caméléon. Caméléon.
Et on va l'écouter tout de suite.
Personne n'écoute.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Aligre FM 93.1. L'émission s'appelle toujours French Up. Je suis en compagnie de Benjamin Husson du site Zoomerang, entre autres. On fait un petit panorama comme ça, vite fait, des années, début des années 70. Donc on vient d'entendre, on garde un peu les couples. Hein.
Non, c'était pas encore Madame et Monsieur à l'époque, ouais. Hein, France Gall et Berger. Elle était, pour la petite anecdote, et soyons un peu tabloïd, tiens, elle était avec Julien Clerc à l'époque, ouais. Et lui était avec Véronique Sanson. Et effectivement, il sort son premier album en 73. Une partie a été composée alors qu'il était encore avec Véronique Sanson, l'autre partie alors qu'elle s'est déjà barrée avec Stephen Stills de Crosby, Stills, Nash & Young. Et il y a une partie de chansons très tristes et une autre partie plus enlevée avec ce fameux Personne n'écoute qu'on vient d'entendre. Et effectivement, à l'époque, personne n'écoutait Michel Berger. Il faut bien le dire, il n'avait pas de succès. C'est il faisait vrai. Partie du Sérail, il était directeur artistique, il commence à chanter, il avait fait un album instrumental très très chouette.
Puzzle génial. Ouais.
Voilà, et Berger, c'est le bon exemple. Alors, c'est maladroit dans la voix et tout, c'est tout ce qu'on veut, mais voilà quelqu'un qui avait tout à fait synthétisé la chanson française, les Beatles, Ray Charles, et ça se sent, ça commence à swinguer, ça swingue un peu à la française, comme on dit.
Et c'est vrai que ce titre-là, justement, c'est vrai qu'il était directeur artistique. Je pense qu'il avait bien compris qu'il fallait mettre un petit peu un single ou un titre un peu speed sur l'album, parce que c'est vrai que l'album, c'est pas représentatif du tout de l'album. Qui quand même est très, très beau, je trouve.
Oui, oui, c'est vraiment un bel album. Cœur brisé, on l'appelle.
Voilà, c'est un album de rupture, quoi. C'est un album qui est assez sombre.
Qui est très sombre. Qui est très, très sombre et même. Très, très délicat, avec des textes très, très touchants et très simples à la fois, effectivement.
Voilà. Et puis, donc juste avant, c'était France Gall. Et t'as fait une super chronique hein, sur France Gall où tu parles de Frankenstein.
Et autres horreurs.
Puisque t'as créé un espèce d'album qui n'existe pas.
Un faux album.
Avec toutes les 45 tours qu'elle a fait pendant cette époque. Qui, voilà, entre le moment où Gainsbourg la lâche, où elle essaie de monter un petit peu son label qui ne marche pas d'ailleurs.
Oui, qui est celui du Gaufret d'ailleurs, la compagnie.
Voilà. Et puis, donc elle va s'essayer avec pas mal de gens, avec Delpech d'ailleurs aussi, j'avais vu.
Oui, ça sortira pas.
Et c'est une période où elle se cherche, et finalement, je trouve que c'est une période vraiment super intéressante. Et le morceau qu'on avait entendu, donc Camélon, tu l'as dit, hein, c'était écrit par Rodagile. Il y a eu un titre coécrit par Julien Clerc aussi.
Qui était la face B de Caméléon, qui s'appelait Chasse-Neige. Puis elle a travaillé avec Lanzmann, elle a travaillé avec plein de gens d'ailleurs, tout en n'étant pas très contente parce que c'était pas ce qu'elle avait envie de faire.
Riva, et puis c'est tout, la bande des gens qui bossaient
qui lui
un peu
déjà
pour
fait
Bébé
Requin, etc. Voilà.
Et c'est vrai que c'est une période complètement désertée parce que ça a même pas été réédité.
Non, parce que
ni en CD, ni en
quoi que ce
soit.
Donc je pense que les maisons de disques ne sont pas super intéressées à revendre la chose. Elle n'était pas très contente, donc elle ne l'a pas fait. Mais c'est une période intéressante, c'est une période amusante. Et c'est une période où elle s'essaie vraiment à des styles très très différents. On est quelquefois dans du Burt Bacharach, hein, on n'est pas loin de ça.
Ouais, c'est vrai. Ouais. on va écouter Véronique Sanson, parce que ça, on y tient. Mm. Hein, je crois que tu es un grand fan de Véronique Sanson.
Moi, je trouve surtout que le premier album de Véronique Sanson est une merveille. Françoise Hardy a dit... Quand t'es sortie amoureuse, ce premier album, on a tous pris une claque. Et on va écouter un extrait de cet album-là, qui s'appelle l'extrait Maria Van. On va pas l'écouter dans la version de 72, on va l'écouter dans la version de l'Olympia 1976, parce que c'est vraiment une belle version et qu'elle a déjà intégré plein de rythmes américains. Voilà.
Voilà, donc Maria Van, version 76 live, Véronique Sanson tout de suite.
Les jardins sont tellement beaux, Maria.
Voilà, Véronique Sanson qui va mettre une claque un petit peu à toute la chanson française au début des années 70.
C'est complètement
70.
Une nouvelle façon de travailler, effectivement. C'est un album enregistré en direct avec des arrangements très légers et surtout des mélodies absolument imparables et des textes comme ça qui, sans être des œuvres d'auteur, ont un vrai sens. Et ça démarre complètement de la décennie précédente.
Voilà, bon, Benjamin, il est déjà presque temps de se quitter. Je te remercie beaucoup. On a fait un petit panorama comme ça.
Ouais, c'était rigolo.
Un peu improviste comme ça de ce qu'il y a pu y avoir d'intéressant dans les années 70. C'est vrai qu'après, c'est toute une autre période de gens qui vont débarquer, genre Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, etc. Des gros vendeurs de disques.
Ouais, toute la suite de Véronique Sanson, Michel Berger, Françoise Hardy qui va s'y rallier. Les choses vont s'installer. Parallèlement, la grosse variété, si on peut dire, va reprendre avec les ex-idoles des années 60. Mais les choses continuent à exister, à coexister de façon plutôt amusante tout au long des années 70. Et ça sera amusant de voir Gérard Manset chez les Carpentiers, extrêmement mal à l'aise au bord de l'évanouissement.
Il en a pas fait beaucoup d'été.
Il en a fait un, je l'ai vu récemment, c'est quand même très très drôle.
C'est génial. C'est génial parce c'est un chien dans un jeu de quilles, quoi. Qu'est-ce que je fais là?
C'est ça. C'est exactement ça.
Et effectivement, enfin, ça, voilà un mec culte. Bon, j'ai pas diffusé du Manset aujourd'hui, mais il y a eu une émission, je crois, qui est peut-être encore en ligne sur Manset que j'avais fait il y a un petit moment. Et c'est quelqu'un d'incroyable. Voilà, qui fait partie des plus grands. Ça dépasse bien, ça dépasse le cadre de la pure chanson française ou.
Non, moi je trouve que c'est absolument de la chanson française, justement, mais dans sa plénitude.
Faut surtout pas lui dire ça, parce qu'il aime pas du tout.
Mais tant pis pour lui.
Qu'on lui dise ça, tant pis pour lui. On va se quitter avec un extrait des Paradis Perdus, aussi chroniqué sur Zoomerang. Le morceau s'appelle Mama, un morceau très rock et très désespéré aussi, le morceau de Christophe. Oui. Merci beaucoup, Benjamin. Je rappelle ton site, Zoomerang, et puis il y a une page MySpace.
Il y a une page MySpace, Benjamin Husson Zoomerang. Mais voilà. Allez vous promener sur Zoomerang si ça vous dit. Ça, c'est toujours amusant, en tout cas, moi je pense.
Voilà, ok. Bah, merci beaucoup de ce petit survol, Benjamin. À bientôt. Salut.